Vous écoutez Radio Campus à Castopol et nous sommes le 17 mai. Salut tout le monde, je m'appelle Lilou et je suis accompagnée de Zia et Pauline. Vous écoutez l'émission Ça caste au pôle sur Radio Campus Tours et nous allons donc vous parler de la vie au pôle. Donc pour commencer, on est toutes les trois à l'internat, comment ça se passe ?
Et bah, moi personnellement, l'arrivée au pôle, donc surtout à l'internat, j'étais très pressée. C'était quelque chose de nouveau qui allait changer. Donc forcément, il y a l'éloignement de la famille au début. Mais franchement, on s'y habitue parce qu'ici, on retrouve... Bah forcément des amis, puis on a un âge aussi où ça compte beaucoup, donc ça compense pas mal.
Du coup, avec Lilou, on arrive à l'internat quand on était en quatrième, mais la rentrée, elle était très différente de celle du collège, parce qu'il y a tout qui change, on est les plus petites, le lycée est plus grand, le rythme, il change, donc on n'est plus personne, tout ça.
Donc on est donc à l'internat, ce qui signifie que la semaine, on n'est pas chez nous. On ne s'en rend peut-être pas compte, mais cela apporte une charge mentale et physique en plus. Donc les gens de l'extérieur ne comprennent pas notre rythme et tout ce qu'on doit faire pour atteindre notre but, ce qui est de, pour la plupart d'entre nous, d'arriver au niveau. Donc l'internat, c'est plutôt positif pour vous, mais comment vous combinez ça avec une journée type au pôle ?
Donc oui, forcément, faut savoir combiner l'internat avec une journée type au foot, ce qui n'est pas forcément simple, parce que c'est un rythme à avoir et il faut s'adapter. Donc, il faut savoir qu'une journée de cours, on va faire du 8h-16h. Et après, on va enchaîner avec un entraînement qui va être de 16h30 jusqu'à 18h. Et ce qui est assez compliqué, c'est qu'il faut rester concentré tout au long de la journée. Ce qui n'est pas forcément simple tout le temps. Quand, par exemple, en hiver, la motivation, elle n'est pas forcément là, tout ça. Il faut trouver la motivation.
Et pour toi, Pauline, comme tu es blessée actuellement, comment ça se passe quand on est blessé au pôle ?
Bah, on est obligé d'assister aux séances. Après, ça dépend de la blessure, mais on a des kinés, médecins qui sont présents deux fois par semaine. Et les kinés, plus, tous les jours, je crois.
Oui, tous les jours. Du coup, t'as repris, là, si je me trompe pas. Et que fais-tu pendant les séances ?
Pendant les séances, je commence par faire du kiné en début de séance. Après, je descends, je fais du footing. Et après, tu fais un peu de travail technique avec le préparateur physique.
Du coup, on est à l'internat et pour les week-ends, comment ça se passe ?
Les week-ends, ils sont très courts parce que le vendredi, on rentre le soir. En général, on rentre vers... Moi, personnellement, j'arrive vers 20h chez moi. Après, le samedi, c'est vraiment la seule journée où on peut vraiment profiter de la famille. Et après, le dimanche, on a nos matchs en... la plupart des filles jouent en 19 nat. Du coup, les déplacements, ils sont assez loin. Après, il y a des week-ends où on part sur deux jours. Du coup, on n'a vraiment pas de week-end. Et le dimanche, on revient à l'internat le soir.
Franchement, je suis d'accord avec Pauline, c'est la même chose. Je dirais, forcément, le week-end, du coup, on ne profite pas forcément tant que ça. Donc au début, c'était assez compliqué, mais après, on s'adapte entre les allers-retours, entre Tours, là où on habite, et le club dans lequel on joue. Donc comme elle l'a dit, au niveau national, les déplacements, on en fait pas mal.
C'était donc Pauline, Zia et Lilou sur Ça caste au pôle.
Bonjour, je m'appelle Maya. Aujourd'hui, je suis avec Laetitia et Mathilde. Mes invités vont vous parler de leur passion. Allons-y, c'est à vous, Mathilde. Pourquoi avez-vous commencé le foot ?
Alors, j'ai commencé le foot grâce à ma famille, en particulier mon père, parce qu'il était entraîneur, et mon frère, parce qu'il a pratiqué aussi, lui aussi, le foot. Et du coup, je les ai suivis, j'ai fait pareil. Après, ma mère n'était pas trop pour, mais avec le temps, elle a accepté.
À vous, Laetitia.
Alors, par moi, pour commencer, avant le foot, j'ai fait pas mal de sports. J'ai fait du tennis, j'ai fait de l'handball et tout. Et après, je me suis mis au foot. Au début, mon père, il n'était pas trop d'accord, puisque pour lui, c'était un sport de garçon. Mais après, il m'a mis au foot et depuis, j'y suis. Voilà. Mais pourquoi vos mères, elles ne voulaient pas que vous pratiquiez le football ?
Parce qu'elle pensait que le foot, c'était un sport de garçon et elle voulait pas que je sois un garçon manqué.
Père, prochaine question, merci beaucoup. Lorsque vous avez commencé le foot, pensiez-vous arriver jusqu'à là ? Et quelle a été votre réaction lorsque vous avez su que vous avez été prise au Pôle Espoir ? Mathilde.
Ok. Honnêtement, pas du tout. Quand j'ai commencé le foot, c'était pour le plaisir. Et pour savoir quand j'ai été prise au pôle, je me souviens, j'étais en cours et j'avais mon tel dans les mains, je faisais que d'actualiser. Après, la liste n'était pas encore sortie, du coup, je suis allée dans le minibus pour aller au foot. Et là, j'ai vu la liste a été sortie, carrément, je voulais pas appuyer. On m'a dit d'appuyer et quand j'ai vu mon nom, j'ai crié dans le minibus. Hein. Et après, j'ai vu aussi le nom de Maya, parce que je la connaissais d'avant et j'étais trop contente.
Et vous, Laetitia ?
Alors moi, non, pas du tout, je ne pensais pas arriver jusque-là. Mais ma réaction, moi déjà, je n'ai pas eu le même parcours que vous. Je n'ai pas fait des tests d'entrée comme vous. Moi, j'ai été à l'INSEP. Du coup, moi, j'étais en études, puisque j'étais au CREPS en Guadeloupe. J'étais en études et je reçois un appel de mon coach de la sélection. Il m'appelle, il me dit « Ouais, ça va, tout ça, tout ça. » Il me dit « Ouais, t'as été prise au pôle de Tours et tout. » Moi, je lui fais « Hein ? Comment ça ?» Et après, il me dit « Ouais, ouais, t'as été prise au pôle de Tours et tout. » Du coup, moi, ma première réaction, c'est que j'ai appelé ma mère direct. J'ai appelé ma mère et tout, j'étais super contente. J'ai pas crié, mais j'étais contente. Du coup, voilà.
Très bien. Merci, Laetitia. Prochaine question. Arrivez-vous à gérer la distance avec vos parents en étant à l'internat ? Mathilde ?
Au début du pôle, la première année, je ne suis pas cachée, c'était un peu compliqué, mais après, on s'habitue avec le temps. Là, ça va, genre, je suis contente de rentrer le week-end, mais la semaine au pôle, je suis bien entourée, donc ça va.
Et vous, Laetitia ?
Moi, c'est... Au début, c'était compliqué, puisque ma famille, ils habitent en Guadeloupe, donc niveau distance, je pense qu'on est bien. Non, au début, c'était dur, mais j'ai la chance de rentrer en Guadeloupe, on va dire, quand je veux. Je rentre en décembre, en avril et aux grandes vacances, donc ça va, c'est gérable. Et maintenant, avec les téléphones, les appels, tout ça, j'arrive à gérer, donc ça va.
Et pour finir, arrivez-vous à gérer votre double projet en tant que sportif de haut niveau et lycéenne, Laetitia ?
Au début, je vais pas mentir, l'école, c'était pas ma priorité, j'étais vraiment sur focus sur le foot. Mais après, quand tu prends un peu plus de maturité, tu te dis qu'on sait jamais ce qui peut arriver, tu peux te faire des croisés, tu peux te faire n'importe quoi. Et le foot, ça s'arrête, donc il faut quand même mettre une certaine exigence sur l'école. Donc on va dire cette année, j'arrive un peu plus à gérer mon double projet.
Merci beaucoup. Ainsi, ça s'achève notre émission. Merci.
Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis en compagnie de ma très chère amie Félicia Goyi. Peux-tu te présenter rapidement s'il te plaît ?
Alors moi c'est Félicia Goyi, j'ai 16 ans, je suis une joueuse du Pôle Espoir de Tours et je joue aussi à Sarcelles en U19 National. Et toi ?
Alors moi je me nomme Gupiat Bulverelli, j'ai 16 ans également et je suis aussi une joueuse du Pôle Espoir de Tours. Et je pratique au club du Paris FC en U19 National. Alors tout d'abord, nous allons vous parler de la passion du foot, c'est-à-dire comment le foot est-il devenu une passion pour nous deux ? Comment avons-nous aimé ce sport ? Puis des rencontres que l'on peut faire grâce au sport, n'importe quel sport, les rencontres que nous pouvons faire et tisser, qui peuvent être incroyables. Félicia, peux-tu commencer à nous raconter comment le foot est-il devenu une passion pour toi ?
Alors moi j'ai commencé le foot avec mon frère en bas de chez moi sur un terrain et aussi je joue aussi beaucoup au foot en primaire à la cantine avec mes copains et mes copines et ensuite à l'âge de 11 ans ma mère elle m'a proposé de m'acheter des gâteaux si je m'inscrivais en club elle a dit qu'elle allait m'acheter des gâteaux du coup j'ai accepté. Et du coup, je me suis inscrite au club RC Gonesse. J'ai joué avec les filles. Ensuite, je suis passée avec les garçons. Et après, je suis repassée avec les filles. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à aimer le foot. Ça m'a vraiment plu. Du coup, j'ai continué. Et j'ai changé de club à Sarcelles et j'ai continué.
Et y a-t-il une personne qui t'a inspirée à te lancer dans ce sport ?
Je dirais mon frère, du coup. Comme je jouais devant chez moi avec lui, c'est plutôt lui qui m'a poussée à faire ce sport.
D'accord.
Et toi, Ellie ?
Alors, moi, le foot, j'ai fait beaucoup de sports avant de commencer le foot. J'ai fait du coup, pour commencer, j'ai fait du foot. Je faisais du foot dans l'école, enfin dans la cour de récréation en primaire. Je faisais du foot, etc. J'aimais bien, mais je comptais pas encore me lancer en club. Puis il y a un ami à moi, mon meilleur ami, mon meilleur ami de primaire, qui faisait du foot et il m'a dit de rejoindre son club. Du coup, je suis allée faire du foot avec lui dans le même club que lui et j'ai commencé à apprécier. Ensuite, j'en ai fait 2 ans, du coup, à partir de ce moment-là. J'ai fait 1 an au club de Lézigny, puis je suis partie à Joinville, au RC Joinville. Et à partir de ce moment-là, j'ai arrêté le foot. Et j'ai repris 2 ans après. Et à partir de ce moment-là, bah, ça a continué, le foot. Je voulais pas arrêter. C'est devenu un peu une obsession, du coup.
Et qu'est-ce qui t'a poussé à continuer le foot et pourquoi ce sport et pas un autre ?
Alors, c'est une très bonne question. Le foot, comme je vous l'avais dit, j'en avais fait 2 ans au début. Puis j'ai arrêté le foot car en ce moment-là, je faisais du foot et du basket en même temps. Parce que mon père, il est coach et du coup, j'ai voulu suivre ses pas un peu. J'avais décidé d'arrêter le foot pour continuer le basket. Sauf qu'au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que bah, je préférais le foot. Je m'intéressais beaucoup plus au foot. Je regardais tout le temps des matchs de foot et non de basket. Je m'y intéressais peu. Je m'y intéressais, mais pas assez, pas autant que le foot. Donc, à partir d'un moment, j'ai dit à ma mère que bah, je voulais continuer, et à mon père que je voulais continuer le foot et non le basket. Et donc, après, à partir de ce moment-là, je ne me suis pas arrêtée et j'ai fait du foot bah, jusqu'à maintenant. Donc, pour conclure ça, pour vous raconter un peu comment le foot est devenu une passion pour nous deux, comment on a commencé à apprécier, qu'est-ce qui nous a poussé à aimer ça, qui nous a inspiré, etc. Alors maintenant, nous allons vous parler des rencontres que l'on peut faire grâce au sport. Donc comme je l'ai dit, dans n'importe quel sport, nous pouvons faire de belles rencontres. Par exemple, il y a eu avec bah, du coup, ma très chère amie Félicia Goyi, nous nous sommes rencontrés grâce au foot lors d'un stage il y a maintenant 2 ans de là. Un stage pour rentrer au pôle espoir, puis nous avons toutes les deux été sélectionnées pour l'intégrer. À partir de ce moment-là, au fur et à mesure du temps, on a commencé à tisser des liens, et depuis ce jour, on est devenus, et actuellement, du coup, on est très très amis. Voilà. Donc c'était pour vous partager un peu comment le sport peut nous faire découvrir de belles personnes et de belles rencontres. Donc maintenant, Félicia va nous donner quelques exemples d'amitié qu'il y a dans le foot ou dans le sport en général.
Bah, dans le foot professionnel, nous avons au PSG Messi et Neymar. Avant, nous avons Cristiano Ronaldo et Marcelo.
Exactement.
Et pour finir, Mbappé, Hakimi.
Exactement. Voilà. De belles amitiés.
De belles amitiés.
Pour conclure, on peut dire que le foot est donc devenu une très belle passion, qui est devenu un sport auquel nous nous y attachons beaucoup. C'est devenu... de toute façon, le foot, il occupe plus de 90% du temps, de notre temps actuellement, avec le pôle, etc. Et que grâce à ce sport, il y a des avantages du coup, et des inconvénients quand même. Et que les avantages sont les rencontres que l'on peut faire grâce... à ce sport. Voilà.
J'ai grandi dans la terre, chirdée entre mer et père, débordement en bord de mer avec des potes super, des potes de merde, bout du monde, peinard bête. Même les vénards se plaignent au bled, peinard pas, déjà tête, né de la crise. Banana bread, j'avais pas la banane à Brest, à l'époque des bandanas des pestes, une bande de nanas à l'ouest, fume explose, elle hésite, il au test. Besoin d'air, besoin d'air. Adelaide, Nosti, Barnaba, Namna, Onet, Onet. Chez moi c'est nulle part, pour être honnête. Je pensais que c'était nulle part chez moi. Je pensais que c'était nulle part chez moi. Nulle part chez moi. Anomalie dans la dune, l'eau a coulé sous les ponts. Calomnie à la dendure, c'est cool, j'ai su passer les ponts. Je pensais que c'était nulle part chez moi. Je pensais que c'était nulle part chez moi. Nulle part chez moi. Partir, 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 loin. Revenir, 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 bien. Perdu, pas dupe, j'avais de l'air pur, pas dupe. un tas d'histoires à dire, pas de chute, anti-douleur, au pire, pas de stup, je ne m'étais pas dupe. Pas de peau ni mat, ni mat, ma peau à l'asthme, mat, c'est le sud. Au scalerie à l'attitude, femme au bord de la crise de nerfs. Née d'une histoire amère, j'ai besoin de la prise de mer. J'aime l'océan dans mes narines, fuck le physiomère. J'ai toujours su que je m'en sortirais, je suis visionnaire. J'ai toujours suivi mon flair. Amo Cocadis, l'âme coule comme Amo Cocadis. Pourquoi t'es pas pisse? Qui suis-je? Il manque beaucoup trop d'indices. Partout à 10, jadis, pourquoi tous ces caprices? Y'a pas canis que j'ai de la mif, parce que le kiff, j'ai pas masqué le bif. Est-ce une fausse bonne idée, le trou du cul du monde? Famille explosée comme dans micro-ondes, je ressens comme une micro-onde. C'est dur d'assumer les pleurs sans lacrymo. Qui puis-je incriminer? C'est juste que j'étais pas synchro. J'ai grandi dans la terre, terre, chirdée entre mer et père. Débordement, bord de mer avec des potes super. Des potes de merde, bout du monde, peinard bête. Même les vénards se plaignent au bled, peinard bat déjà tête. Née de la crise, banana bread. J'avais pas la banane à Brest, à l'époque des bandanas des pestes. Une bande de nanas à l'ouest, fume explose, elle est test. Besoin d'air, besoin d'air. Adelaide, Nosti, Barnabanam, Naonet. Chez moi c'est tout part, pour être honnête. Je pensais que c'était nulle part chez moi. Je pensais que c'était nulle part chez moi. Nulle part chez moi. Anomalie dans la dune, l'eau a coulé sous les ponts. Calomnie à la dendure, c'est cool, j'ai su passer les ponts. Je pensais que c'était nulle part chez moi. Je pensais que c'était nulle part chez moi. Nulle part chez moi. Partir, 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 loin. Revenir, bien. Je pensais que c'était nulle part chez moi. Je pensais que c'était nulle part chez moi. Nulle part chez moi. Anomalie dans la dune, l'eau a coulé sous les ponts. Calomnie à la dendure, c'est cool, j'ai su passer les ponts. Je pensais que c'était nulle part chez moi. Je pensais que c'était nulle part chez moi. Nulle part chez moi. Partir, 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 loin. Revenir, bien.
Vince the Cuero sounded like now.
Thank you for your attention. It's actually coming to an end. Are there any questions?
Bonjour à tous, je me présente Zara Kazan, actuellement en seconde générale du Pôle Espoir de Tours. Je rencontre aujourd'hui Assemina Maoulida, joueuse passée par le Pôle Espoir, qui évolue désormais à l'Olympique Lyonnais.
Ça va très bien, enchantée Zara.
On va commencer par ton parcours. Parle-moi de ton parcours sportif.
Bah moi, j'ai commencé au Blanc Foot 41. À l'âge de 9 ans, j'ai commencé le foot. J'ai commencé d'abord avec les filles pendant 2 ans. Et ensuite, je suis passée avec les garçons du Blanc Foot. Donc, j'ai joué avec les garçons de U11 jusqu'à U15. Donc, à l'année du 15, bah, je passe tous les tests de la Ligue pour rentrer en Pôle Espoir. Donc, l'année d'après, pour les U16, je rentre en Pôle Espoir. Et en club, j'ai signé au Tour FC pour un an en jouant en R1. Donc, je suis rentrée au Pôle Espoir. En rentrant au Pôle Espoir, j'ai fait mes premières sélections, donc de U16 à U19. En U19, j'ai gagné l'Euro U19 avec la génération 2000. Et sur mes deux dernières années de Pôle, donc la première année, j'étais au Tour FC, et les deux dernières années de Pôle, j'étais à l'US Orléans en D2. Et aujourd'hui, j'ai signé... Après le Pôle, il y a eu le Covid. J'ai signé à l'Olympique Lyonnais pour une année, pour une durée de 2 ans. À l'Olympique Lyonnais, bah, y a eu encore le Covid, donc j'ai fait 8 mois à l'Olympique Lyonnais. Et en janvier 2020, il y a le Havre qui me contacte pour un prêt. Donc je suis partie 6 mois en prêt où j'ai fait mes premiers matchs en D1 féminine. Et je suis revenue à l'OL et je suis repartie la saison dernière en prêt à Issy-les-Moulineaux pendant un an. Et à la fin de l'année de cette année-là, je me suis fait les ligaments croisés. Du coup, il me restait un an de contrat avec l'OL, donc je suis rentrée, je suis revenue à l'OL pour me soigner. Et voilà, aujourd'hui, je suis joueuse à l'Olympique Lyonnais.
Actuellement, à l'Olympique Lyonnais, comment ça se passe?
Écoute, j'ai été blessée toute la saison. Je me suis fait opérer en juin dernier. Donc, j'ai été blessée toute la saison. Je viens tout juste de reprendre les matchs. Donc, bah, en vrai, ça s'est bien passé. On est bien entouré. Bah, en tout cas, niveau réathlé, on est bien entouré. Je suis entourée de grandes joueuses. Donc, forcément, ça peut que bien se passer. Et aujourd'hui, bah, j'ai repris avec la réserve de l'Olympique Lyonnais, pas tout de suite avec la D1, histoire de retrouver des repères. Et voilà.
Suite à cette difficulté par rapport à ta blessure des ligaments croisés, comment as-tu surmonté cette étape?
Bah, c'était très dur à accepter parce que au départ, l'année où je me fais les croisés, en fait, je décide de repartir en prêt à Issy-les-Moulineaux parce que c'est une année de Coupe du Monde, la Coupe du Monde du 20, donc ma génération. Donc ma dernière année avec les jeunes équipes de France. Donc je me suis dit, bah, je vais partir en prêt pour avoir du temps de jeu et me préparer au mieux pour cette compétition. Malheureusement, cette année-là, elle a été très compliquée déjà de 1 au niveau équipe de France et au niveau club. Et ensuite, bah, à la fin de saison, je me suis blessée. Donc, ça a été très dur parce que du coup, pas de Coupe du Monde, enfin, pas de possibilité d'être appelée en Coupe du Monde. Ensuite, j'ai dû me faire opérer. J'ai mis du temps. J'étais pas très bien entourée au départ parce que mes amies, elles étaient en Coupe du Monde aussi. Donc, un peu seule au début. Et puis, au fur et à mesure, bah, quand tu viens de te faire opérer, en fait, t'acceptes le fait que tu peux pas jouer au foot dans tous les cas. Tu peux rien y faire. Tu peux pas jouer. Donc, tu fais en sorte de te soigner. Et au fur et à la fin, bah, je pense que le plus dur, ça a été plus la fin que le début. Parce que tu es proche du terrain, mais tu peux pas encore y aller, puisque tu as des étapes à franchir. Donc ça a été très très dur. Et je pense que je l'ai juste surmonté mentalement. C'est une blessure mentale, en fait, les croisés. Donc c'est mentalement que je l'ai surmonté. J'avais pas forcément de méthode, mais je faisais en sorte que chaque jour, ça soit une avancée pour moi.
Par rapport à tes études et le monde du professionnel, comment as-tu réussi à faire les études et le sport en même temps?
Donc moi à l'école, bah, jusqu'au collège, ça s'est très bien passé. Après, bah, je suis rentrée en pôle. Je suis rentrée en pôle avec Émilie. On avait mis des choses en place au niveau du soutien scolaire le soir. Je ne sais pas si vous avez encore ça de 20h à 21h à l'internat.
Si on a toujours, enfin on a de la perme
Ouais,
du coup.
donc. Voilà, c'est ça. Il y a la perme, mais il y a aussi une personne du pôle, le service civique, qui venait en bas et on faisait les cours aussi avec lui individuellement. Donc en seconde, j'étais là-bas de 20h à 21h pour suivre mes cours et ça m'a permis à la fin de l'année de seconde, d'entrer en bac ES. Donc après, j'ai été en bac ES. J'avoue, ça a été très dur. C'est pas facile de faire l'école et le foot. Plus les sélections, je partais souvent en sélection à cet âge-là. Donc ça a été très dur, mais. Avec le pôle, enfin le pôle, mes parents, c'était vraiment une volonté d'avoir le baccalauréat, donc je me suis accrochée. Et il y avait toutes les choses mises en place pour réussir à l'école. Et ensuite, quand je suis sortie du pôle, j'ai fait un DUT technique de commercialisation. Ça a été dur, donc je ne l'ai pas fait jusqu'au bout. Parce qu'arrivé dans le monde professionnel, en fait, on s'entraîne le matin, après l'après-midi, bah. Il y a de la fatigue, tu n'as pas le temps de travailler. Le lendemain, tu te réentraînes le matin. Donc, c'était dur. Donc, bon, moi, mon objectif, c'était un peu le bac. Maintenant, aujourd'hui, il y a la possibilité de faire des formations qui sont adaptées à mon parcours, enfin, à mes entraînements, etc.
Aujourd'hui, on a une coéquipière qui vient de se faire les croisés. Je voulais savoir si tu aurais un petit conseil à lui donner pour gérer au mieux la blessure.
Le conseil que je lui donne, c'est que dans tous les cas, cette blessure, elle va être longue. Donc, il faut prendre son temps, il ne faut pas se précipiter. Il faut s'accrocher et que chaque jour, il faut qu'elle voie le positif. Chaque jour, il faut qu'elle se dise, qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai pris. En fait, quand tu te fais la blessure au genou, au départ, tu ne peux pas tendre et tu ne peux pas plier ton genou. Et moi, chaque jour, je me disais, ah, j'ai gagné 1 degré. Ah, j'ai gagné 1 degré de flexion. Et bah ça, c'était une petite victoire pour moi qui me permettait de garder la face en fait. Donc je lui souhaite d'être patient. Il faut beaucoup, beaucoup de patience et accepter le fait que ça lui soit arrivé.
Comment tu peux gérer la pression? Parce que j'imagine que ça doit être compliqué.
C'est dur hein, parce que moi aussi j'ai eu beaucoup de fois où, surtout à votre âge, quand j'étais au pôle, j'avais la pression. Les matchs de pôle, j'avais la pression. Les matchs d'équipe de France, j'avais la pression aussi. Mais je pense que dès qu'on joue au foot, on fait ce qu'on aime. On se dit que dès qu'on rentre sur le terrain, il faut prendre du plaisir. Et c'est ce que je me dis à chaque fois. faut aimer donner un bon ballon à sa coéquipière. Faut aimer, par exemple, bah moi je suis défenseur central, donc j'aime défendre pour les autres. Donc c'est prendre du plaisir et chaque chose qu'on fait sur le terrain, bah on aime le faire parce que c'est pour les autres et pour aller à la victoire, quoi.
As-tu des conseils à donner à une future footballeuse ?
Quel conseil je donnerais à une future footballeuse ? C'est une bonne question. Je pense de beaucoup, beaucoup travailler, d'être humble et d'être exigeante avec soi-même. Et puis, avec beaucoup, beaucoup de travail, rien n'empêchera à une jeune footballeuse de devenir footballeuse professionnelle. Donc, beaucoup, beaucoup de travail, je dirais.
J'ai une question aussi à mon tour à te poser, Assimina. Tu joues en défense. Je voulais savoir si, quand tu étais plus jeune ou quand tu étais au pôle, tu avais des joueuses ou des joueurs qui te servaient de référence à ce poste et lesquels ?
Moi, quand j'étais plus jeune, bah forcément, qu'on a tous connu Wendy Renard. Forcément, c'est une joueuse qui impose, que ce soit défensivement ou même offensivement, qui marque beaucoup. Et chez les hommes, je pense, je dirais Puyol ou Virgil van Dijk, un peu les deux. Des joueurs, bah, Puyol, il était au Barça, donc le Barça, ça joue. Et en même temps, il était très agressif. Et Virgil van Dijk, pareil. Et je pense que c'est des joueurs qui m'inspirent encore aujourd'hui.
Et j'avais une dernière question qui est peut-être un peu plus légère. Maolida, moi, c'est un patronyme qui m'évoque un attaquant de Ligue 1 des années 2000. Est-ce que, à ton tour, tu veux faire rayonner le patronyme Maolida pour supplanter toi, Filou, qui était un attaquant qui a joué à l'OM, et que quand on pense Maolida dans le foot aujourd'hui, on pense à Assimina et pas à cet attaquant?
Bah écoute, si j'arrive à faire le même style de carrière que lui et on va dire le doublé, on va dire. C'est un grand joueur, donc c'est dur de penser ça. Je ne l'ai pas trop connu, mais si je peux faire briller aussi notre patronyme encore une deuxième fois dans le football féminin, c'est avec plaisir que je le fais, donc que j'essaierai de le faire, en tout cas.
On te le souhaite.
Qu'est-ce qui t'a poussé à jouer au foot ?
Bah, moi, j'ai deux grands frères et deux grandes sœurs. Le plus grand, il ne jouait pas trop au football, mais les trois autres, bah, ils jouaient au football. Et au final, en fait, il n'y a eu que ça comme activité à faire. En bas de chez moi, il y avait un city stade, donc forcément, je joue au football. À l'école, je joue au football. Et donc, tout simplement, c'était logique pour moi de m'y inscrire.
Aimes-tu d'autres sports que le football ?
Le basket, parce que ma mère, elle a joué un peu au basket. Et le hand, je pense que c'est deux sports que j'apprécie beaucoup. Toujours des sports collectifs, évidemment. Mais c'est deux sports que j'aime beaucoup.
D'accord, et tu les pratiques ?
Non, pas du tout. J'aime beaucoup regarder le hand à la télé. Et après, le basket, bah, quand forcément il y a un petit panier de basket où on peut mettre. Et un ballon, forcément on y joue, mais pas plus que ça, on va dire.
Quels sont tes meilleurs souvenirs au Pôle Espoir ?
Oh là là, il y en a beaucoup, hein, je pense. Hein. Je pense mon premier match de Pôle. Parce que on joue, je ne sais pas si ça existe encore, mais on joue le Pôle Espoir de Blagnac. Et j'étais sur le banc. J'étais sur le banc, bah, première année, forcément, t'es toujours, enfin, pratiquement sûr de ne pas être titulaire. Donc, j'étais sur le banc et il y a une troisième année qui se blesse. Mais ce n'est pas à mon poste, elle joue latéral gauche. Et je rentre latéral gauche et je fais un super bon match. Émilie, elle était très contente de mon match. Et on gagne à la fin et on fait un super cri de guerre. Je crois que c'est le cri de guerre le mieux fait de toutes mes années de pôle. Du terrain au vestiaire, on fait un super cri de guerre. Après, j'en ai d'autres, mais après, j'ai eu ma première convocation en U19 que j'apprends au pôle et que, en fait, les filles, elles me prennent, elles me mettent sous la douche. Donc, c'était un très, très bon souvenir pour moi. Et je pense que c'est tout. Après, il y a les barbecues en fin d'année. J'en ai trop. J'en ai vraiment trop. Mais je dirais que c'est mon top 3 là pour l'instant.
Ok, ça marche. Est-ce que tu aurais une petite anecdote avec Emilie Dos Santos ?
Moi, j'en ai pas beaucoup. Je passais entre les mailles du filet, je crois. Je crois que c'est un entraînement. On faisait du jeu. Et en fait, il pleuvait beaucoup. Donc forcément, on est direct passé. On n'avait pas le temps de faire bah, ce qu'elle voulait. Donc on a fait directement du jeu. Et en fait, à un moment, on prend un ballon. Et le ballon, il était mou. Donc, on le tire loin, le ballon. Parce que les filles, entre nous, on se protégeait. Donc, on le tire loin parce qu'on savait que la fille, elle allait prendre cher. Et en fait, elle récupère le ballon. Elle revient et elle lit le numéro. Et c'était mon numéro. Et elle me dit, Assimina, arrête la séance et va courir. Et je pense que j'ai couru jusqu'à la fin de l'entraînement autour du terrain. Je pense que c'est ma seule anecdote que j'ai avec Émilie. Sinon, après, tout s'est bien passé à chaque fois.
Comment as-tu vécu l'après-pôle?
Bah écoute, moi je trouve que bah il y a eu le Covid, nous. Donc le pôle, il s'est arrêté en mars. On n'était plus en pôle. Et après, bah franchement, je l'ai bien vécu, moi. J'ai signé à l'Olympique Lyonnais directement. J'ai découvert de nouvelles personnes. Et j'étais en fait. Cette année-là, je dormais au centre de formation à l'OL. Donc c'était un peu, on va dire, un peu la même chose que le pôle. Et on va dire, j'étais aussi bien entourée qu'au pôle. Donc la transition, elle a été super bien.
Peut-être préciser, l'époque où tu signes, déjà, c'est déjà le meilleur club féminin en France. Est-ce que c'était quelque chose que tu avais osé imaginer avant de signer dans ce qui se fait de mieux en France en termes de football féminin?
Je pense que j'ai toujours eu l'objectif d'être la meilleure joueuse possible et de jouer dans le meilleur club possible. Après, je ne pensais pas y arriver aussitôt, que ça soit tout de suite après le pôle. Au début, j'ai pas tout de suite réalisé quand l'Olympique Lyonnais t'appelle, qu'ils te disent qu'ils sont intéressés par ton profil. J'ai pas tout de suite réalisé. Et au final, après, bah forcément, quand ça vient, tu refuses pas et t'es tout de suite dans le grand bain. T'as pas le temps d'être émerveillé. Il faut tout de suite te mettre au travail pour pas être un poids entre guillemets pour cette équipe, vu que les filles, c'est de très très grandes joueuses. Donc il faut tout de suite être au niveau pour jouer dans cette équipe. Donc t'as pas le temps d'être émerveillé et de
ouais, pas et le de temps de faire la groupie quoi.
Ouais, c'est ça, faut direct se mettre au travail et voilà, c'est ça.
Est-ce que tu as toujours gardé contact avec tes anciennes coéquipières du pôle ou tu as perdu un petit peu contact?
Bah toutes aujourd'hui moi je garde il y a des personnes avec qui je garde contact, mais de loin, on va dire, on prend des nouvelles, on est contente quand on se revoit, etc. Et aujourd'hui, bah qui est proche de moi, bah il y a Kenza Abidi qui est rentrée avec moi. Aujourd'hui, elle a eu une petite fille et sa fille, c'est comme ma nièce, enfin c'est ma nièce pour moi. Donc forcément, le contact, il est resté. Oriane Jean-François, Kessia Bussi, Agathe Donari, c'est des filles. Maintenant, c'est mes sœurs et au quotidien, on se voit. Demain, on peut partir en vacances ensemble. Donc forcément, je pense qu'au lycée, j'ai créé de très, très gros liens avec certaines joueuses du pôle. Et aujourd'hui, c'est mes amis pour la vie, on va dire. C'est clairement le mot à dire.
Bon, bah, on te remercie pour avoir répondu à nos questions et on te souhaite une bonne continuation pour le reste.
Merci beaucoup, c'était avec plaisir.
Merci.
Et j'espère qu'elles vont gagner cet après-midi.
Alors, le match, elles vont pouvoir te dire, en fait, le match a déjà eu lieu, les filles vont pouvoir te donner le score.
Il y a eu 1-1.
Ah, 1-1. Ouais. Nous aussi, on aimait bien faire match nul contre le pôle de Rennes. Merci, à bientôt. Au revoir, les filles.
Au revoir.
Au revoir.
Bonjour, je m'appelle Eglantine, vous écoutez Ça Casse au pôle et nous sommes le 10 mai 2023. Aujourd'hui, je suis avec Madeleine, mon invitée, va vous parler de la Coupe du Monde 2022. Mais pas que, elle va aussi vous parler des moments qui l'ont marqué durant cette Coupe du Monde. Allez-y Madeleine, c'est à vous.
Bonjour, moi c'est Madeleine et en effet, aujourd'hui, comme vous l'a très bien dit Eglantine, je vais vous parler de la Coupe du Monde 2022, mais pas que, ainsi que des moments qui m'ont le plus marqué durant cette Coupe du Monde. Donc tout d'abord, cette Coupe du Monde a fait débat au niveau de l'arbitrage.
Merci pour votre réponse. Pouvez-vous nous en dire plus par rapport à cet arbitrage?
Oui, donc on a eu une exagération du temps additionnel, ainsi que au tout début du match, la faute sifflée dans la surface causée par Dembélé. Donc pour moi, il n'y avait vraiment pas faute. Ensuite, les conditions de travail. Donc comme vous savez tous, le Qatar fait de l'esclavage. Il y a eu des morts, je crois, durant la construction du terrain.
Oui, effectivement, il y a eu des morts.
Il y a aussi un débat sur la climatisation. Donc, le terrain a été climatisé, sauf que c'était un stade, donc le toit, il est ouvert. Donc la climatisation, elle a servi à rien. La France et l'Argentine nous ont proposé une très belle finale, remplie de suspense et de retournements de situation.
Ainsi vient la fin de notre émission. C'était Églantine et Madeleine au micro sur le plateau de Sacastopol.
Bonjour à tous, je suis Maya. Vous écoutez Sacastopol et nous sommes le 17 mai 2023. Aujourd'hui, je suis avec LR3, Laetitia et Missé. LR3 va dans un premier temps vous parler de la finale de la Gambardella qui s'est déroulée le 29 avril 2023.
En effet, le 29 avril 2023, s'est déroulée la 69e édition de la Coupe Gambardella, opposant l'AS Monaco au Clermont Foot. L'AS Monaco s'est imposé 4-2. Le match débute mal, pourtant, pour les Monégasques. En effet, ils marquent un but qui s'est avéré hors-jeu et trouvent le poteau à la 4e minute. Ensuite, il y a eu une punition immédiate pour les joueurs de Frédéric Barilaro. Le Clermont Foot ouvre le score à la 15e minute sur un but de l'accusé de Robin Pagès. Ensuite, l'AS Monaco égalise grâce à un but de Maïssam Benama à la 22e minute. Puis, 3 minutes après l'égalisation, l'AS Monaco prend l'avantage grâce à un but de Johan Tincres, qui s'est joué de la défense clermontoise, donc 2-1. Fin de la première période, 2-1 pour l'AS Monaco, résultat logique face à la domination monégasque, mais rien n'est joué. Au retour des vestiaires, le match est plus équilibré, mais le numéro 10 monégasque Simon Poibré, passeur sur le premier but, inscrit également un but à la 57e minute, 3-1 pour l'AS Monaco. Mais à la 64e minute, le clermontois Colas Chastan rentre en jeu 5 minutes avant, puis réduit le score 3-2. L'AS Monaco n'en a pas terminé dans cette finale. L'ex-Mainvillois Pape Cabral décide également d'être nommé dans les buteurs de cette rencontre en inscrivant un but à la 82e minute. Score final 4-2 pour l'AS Monaco qui remporte la 69e édition de la Coupe Gambardella.
À noter que Pape Cabral a un 2007 qui est vainqueur et buteur de la Gambardella à son jeune âge.
Merci pour votre écoute. À bientôt.